Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial car je souhaite vous faire découvrir un lieu que j'aime particulièrement à Paris. Il s'agit de la librairie théâtrale. Depuis 1852, la librairie théâtrale propose tout le théâtre édité et ils en éditent même sur place. Dans l'épisode, je reçois donc Charles-Henri Ménival, gérant de la librairie, et Savannah Massé qui s'occupe de la communication et du théâtre jeunesse là-bas. Ils nous parlent de l'histoire de ce lieu, de son activité et nous recommandent même leur coup de cœur. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast.
Ben, nous, on est ravis d'être là.
Est-ce que avant de commencer, je peux vous demander de vous présenter ?
Moi, je m'appelle Savannah Massé. Donc, je travaille à la librairie théâtrale et je suis chargée de la communication, des partenariats et je suis spécialisée en théâtre jeunesse.
Et moi, je suis donc Charles-Henri Ménival. Je suis gérant de la librairie. Je suis aussi auteur de théâtre et c'est tout. Voilà.
La librairie théâtrale, c'est une institution un peu unique. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'histoire, parce que je crois que c'est assez ancien, et ensuite de l'activité qu'elle a aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une librairie qui a été fondée au milieu du 19e siècle, entre les années 1840 et 1850. Donc, c'est une librairie qui, au départ, était située boulevard des Italiens et qui a déménagé deux fois. Elle a déménagé rue de Gramont. Puis ici, rue Marivaux, depuis 1927. Et donc, elle a toujours été dans ce quartier historique qui est le quartier des théâtres, du théâtre de boulevard notamment, mais aussi proche de l'opéra Garnier, l'opéra comique. Cette librairie, alors il faut savoir qu'au 19e siècle, il n'y a pas de distinction entre le libraire et l'éditeur, c'est le même métier. C'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on va voir les éditeurs modernes arriver qui ne font que ça, donc ça va être Grasset, ça va être Gallimard. Mais donc, la librairie théâtrale, depuis le départ, est un éditeur et un libraire de théâtre. Et sa promesse, c'est de proposer tout le théâtre publié en français. Les auteurs qui ont été publiés ici, certains sont devenus très célèbres, notamment Georges Feydeau. Georges Feydeau qui a publié ses premières pièces chez nous, mais aussi Eugène Labiche. Tout au long du XXe siècle, on a eu des auteurs comme Robert Thomas, l'auteur de Huit Femmes, ou Claude Magnier, l'auteur d'Oscar. On a toujours été assez proche du théâtre de boulevard historiquement. Et puis, dans son histoire plus récente, elle a aussi accueilli des auteurs de théâtre plus contemporains comme Léonore Confino, Pierre Note ou encore Matthieu Wisniewski. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour brosser l'histoire de ces librairies. Et évidemment, nous ne sommes pas là depuis 1852, mais en fait, c'est surtout une histoire de génération de libraires qui se sont repassés le flambeau au fil des décennies. Et donc, c'est pour ça qu'on est très heureux d'être les héritiers justement de cette histoire très riche.
Et donc, du coup, aujourd'hui, il reste plusieurs activités au sein de la librairie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et du coup, contextualisez-vous comment vous vous inscrivez dans la vie de la librairie aujourd'hui ?
Alors, je vous ai présenté donc les trois piliers fondamentaux de la librairie. C'est d'abord le magasin. Donc, c'est le premier pilier, c'est la boutique qui propose tout le théâtre publié en français de l'Antiquité à aujourd'hui. Et tous les ouvrages relatifs au théâtre, aux jeux d'acteurs, les beaux livres sur le théâtre, mais aussi le théâtre jeunesse. Et la deuxième activité, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est l'édition. Donc aujourd'hui, on a trois marques éditoriales, la librairie théâtrale, l'édition historique, Art et Comédie, qui est une marque plutôt dédiée au théâtre amateur, la comédie, et L'Œil du Prince, qui est notre collection phare de théâtre contemporain. Et le troisième pilier, c'est le site internet, puisque non seulement on propose des envois, donc on expédie des pièces partout dans le monde, mais aussi on a pour ambition que ce site soit un véritable site de référence sur le théâtre publié et éventuellement même un site de rencontre, c'est-à-dire un site de partage pour notre clientèle. On essaie de développer justement la participation pour que nos clients puissent échanger leurs avis ou même leur création, leur spectacle sur le site.
Et du coup, en ce qui concerne la veille, parce que vous avez un rôle du coup assez central vu qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de l'édition théâtrale et en tout cas encore moins physique dans des lieux où on peut se rendre, comment ça s'organise entre vous justement pour garder un œil à la fois. Il y a un catalogue très vaste sur du théâtre classique et notamment sur là où il y a une création importante sur le théâtre contemporain. Comment ça s'organise et comment vous faites pour garder justement ce renouvellement?
Alors, on en parlait justement entre nous très récemment. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en place, mais qu'on a davantage renforcé parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 ans, on a créé un prix à la librairie qui s'appelle le prix de la librairie théâtrale. L'idée, en fait, avec ce prix, c'est de valoriser les écritures contemporaines, donc leur dynamisme et leur importance aussi, parce qu'il est important de soutenir les écritures vivantes. Et pour ce prix, en fait, on lit chaque année tout ce qui a été édité l'année qui précède le prix. Donc pour ça, on a besoin de faire une veille assez intense et au cordeau, ce qui nous permet aussi de pouvoir suivre l'actualité, d'être assez réactif, que ce soit en boutique, dans ce qu'on va proposer en termes d'ouvrage, mais aussi dans notre communication, parce que ça nous permet de mettre en avant les nouvelles sorties. Après, je te laisse peut-être répondre sur la partie pratique.
On fait tous une veille de notre côté, bien sûr, avec les choses un peu événementielles qui paraissent, mais aussi l'idée, c'est de se réunir chaque mois, de prendre toutes les nouveautés qui sont parues au cours du mois précédent et de faire un comité en fait, dans lequel on va aller regarder, essayer de dénicher pas seulement en fait, de dépasser justement les grosses pièces ou les gros spectacles qui sortent et d'aller regarder en profondeur pour identifier toutes les petites pépites qui pourraient nous intéresser ou intéresser notre public.
Ça me demande aussi de vous demander plus particulièrement, vous, sur vos parcours, comment vous vous êtes retrouvés à travailler ici ? Parce que j'imagine qu'il y a à la fois le regard sur le monde de l'édition qui est spécifique et le regard sur l'actualité théâtrale et le monde du spectacle vivant. Et comment, du coup, comment on se forme ? Comment vous, vous vous êtes retrouvés
Alors, je vais commencer parce que je suis plus ancien. alors, moi, je n'avais pas du tout prévu d'être ici. En fait, j'ai l'habitude de dire que j'ai fait la plus grande école de théâtre de France puisque j'ai fait Sciences Po Paris. Je ne savais pas ce que je voulais faire en sortant, à part que je voulais travailler dans la culture. Mais par contre, j'avais écrit une pièce, Quiproquo, qui a reçu un prix l'année de mon diplôme. Et suite à ce prix, le gérant de l'époque, Christophe Maury, m'avait proposé de publier la pièce. Donc d'abord, je suis rentré en tant qu'auteur dans la maison. Et puis, on s'est rapprochés, une amitié est née. Il m'a embauché en tant que commercial à l'époque pour développer justement le web marketing. Et puis, je suis arrivé dans une maison assez... qui avait des modes de fonctionnement un peu datés. J'ai essayé de renouveler tout ça, d'apporter un souffle d'innovation. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Et en 2019, la boîte était en difficulté. Christophe a été obligé de déposer le bilan. Et c'est là qu'on s'est associé... avec les salariés qui étaient présents pour reprendre le flambeau justement en scope. Et donc c'est ce qu'on a fait depuis 2019, donc moi je suis arrivé en 2016. Donc ça va faire bientôt 8 ans.
Alors moi je suis arrivée un peu après la reprise du flambeau, je ne sais pas si je raconte la vraie histoire ou pas. Petite anecdote, en fait, donc moi je baigne dans le théâtre depuis assez longtemps, donc j'ai fait des études de théâtre à la fac, j'ai fait un master de mise en scène, donc je fais de la mise en scène, je suis critique de théâtre aussi depuis une quinzaine d'années, et je suis tombée sur une petite annonce Facebook où vous cherchiez un étudiant, en fait, pour un job étudiant pour tenir la boutique un jour par semaine. Et je m'étais dit sur le moment, why not ? J'ai toujours énormément lu. C'est vrai que le domaine un peu de la librairie, de l'édition, je ne m'y suis pas encore frottée, donc pourquoi pas ? Donc on s'est rencontrés, ça a commencé comme ça. Et puis moi j'avais... Oui, alors c'était il y a 4 ans. C'est vrai que j'avais peut-être ce petit atout en plus qui manquait, qui était une spécialité en théâtre jeunesse. Ce qui fait qu'après, du coup, j'ai commencé à sortir un peu du magasin pour monter dans les bureaux. Et j'ai commencé à bosser sur le théâtre jeunesse, et puis après sur la com, et puis après ça a dérivé sur plein d'autres choses. Et l'équipe s'est constituée comme ça. Et là, on a accueilli, on a renforcé l'équipe depuis la rentrée. Donc, on a une personne qui nous aide en boutique et on a deux alternantes, une en édition et une qui s'occupe des commandes. Voilà, donc ça s'est bien étoffé et on en est ravis.
Mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, j'imagine que sur les dernières années, bah en plus, vos activités, elles ont beaucoup changé. Il y a eu de la digitalisation. Comme, encore une fois, c'est un secteur qu'on ne connaît pas bien parce qu'il est vraiment au carrefour entre deux. C'est quoi les principaux défis que vous avez aujourd'hui ?
Oui, alors c'est vrai que le marché du livre était pas mal bousculé. Donc, comme je le disais, on a repris en 2019. En 2020, on a eu un petit cadeau qui s'appelait coronavirus. Et donc, ça nous a pas mal challengé, justement, puisque pour le théâtre, c'était catastrophique. Les théâtres étaient fermés. Et surtout, notre clientèle qui cherche des textes, qui a besoin de monter des spectacles, etc. Toutes leurs activités étaient à l'arrêt. Donc, le besoin auquel on répondait avait disparu pendant 2-3 ans. Donc, on a eu d'abord un premier défi qui était comment on fait pour vendre du théâtre quand le théâtre ne se fait plus. Et donc, on y a répondu en essayant de développer d'autres choses, des romans, etc. Et puis, l'autre défi, c'est, je pense maintenant, c'est effectivement adapter le métier de libraire, qui est un métier qui est évidemment centré sur l'humain, le papier, mais qui doit aussi correspondre aux usages d'aujourd'hui. Et nous, on est depuis très longtemps précurseurs sur Internet, puisque on a depuis très longtemps un site. Et aujourd'hui, comment exister par rapport à Amazon ? On ne peut pas se contenter simplement de proposer les mêmes livres avec une offre qui sera forcément moins disante, parce qu'Amazon a des possibilités de logistique. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée sur Internet ? Et moi, je pense... Je crois beaucoup à l'idée de développer une communauté. Ici, il y a, je pense, un fort attachement des clients à cet endroit. Et l'idée, c'est finalement d'étendre cette communauté avec les outils de communication d'aujourd'hui pour que ce ne soit pas seulement la clientèle parisienne qui en profite, mais aussi tous les passionnés de théâtre qui puissent se retrouver. Mais c'est pas forcément simple de faire un site qui soit convivial, sur lequel les gens aient envie de participer, etc. Ou ce soit pas simplement une boutique un peu mercantile. Et donc, c'est tout ce qu'on essaie de travailler, justement, en essayant de permettre aux utilisateurs de notre site, par exemple, de poster du contenu, de poster des avis, des vidéos de leur spectacle, etc. Donc, voilà, je pense que c'est un enjeu. Il y a aussi l'enjeu de l'avenir du livre en lui-même. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le livre, depuis... Sauf l'embellie post-Covid. Après, pendant le Covid, les gens se sont dit c'est quand même formidable la lecture. Mais finalement, le monde repart et très vite, on le voit cette rentrée, par exemple, en 2023, la rentrée littéraire catastrophique parce que les ventes sont en berne dans les librairies généralistes. Nous, on est assez épargnés parce qu'on n'est pas vraiment sur les mêmes problématiques puisque... nous, ce qui est important pour nous, c'est que les gens puissent faire du théâtre et que donc ils soient ils aient besoin de matériaux, etc. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question de l'évolution du livre. Comment on fait pour proposer des livres numériques? Nous, par exemple, sur le théâtre, on ne peut pas vraiment proposer des livres numériques au format fichier, parce qu'on sait très bien que les compagnies ont tendance à photocopier les livres. Donc si on commence à donner des fichiers, ça va être catastrophique. Et nous, on a un enjeu, je pense, qui est de proposer du livre en streaming, par exemple. Donc, un livre qui soit un texte, en fait, une plateforme de texte qui soit accessible par abonnement, par exemple, et qui puisse ensuite, quand on a choisi la pièce qu'on avait envie de jouer, etc., donner lieu à un achat papier. Donc, en fait, changer, faire évoluer les habitudes pour aussi... préserver la création, favoriser la diversité des textes et pérenniser notre activité.
Justement, en plus, vous disiez que vous aviez quand même été en partie épargné sur la rentrée littéraire parce que vous avez des besoins spécifiques, j'imagine, chez les clients qui viennent. Déjà, quelle connaissance vous avez vraiment des clients qui viennent, et est-ce que c'est une majorité d'élèves en école de théâtre, de compagnie, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Oui, alors on a plusieurs publics, donc à la fois le théâtre amateur, mais qui est plus en province, donc eux, ça va plus. On fait beaucoup de conseils de manière générale, que ce soit par mail ou en boutique. Le théâtre amateur, on le voit un peu en boutique, mais c'est des troupes plutôt, enfin, qui sont pas forcément localisées en Île-de-France. Après, vraiment, en magasin, ça va être les profs, les étudiants et les professionnels. C'est vraiment les trois cibles qu'on va rencontrer. C'est vrai que là, on est dans notre plus grosse période qui se déroule entre septembre et janvier-février, où on a énormément à la fois de profs, parce qu'il y a les rentrées. Alors, les profs anticipent un peu, ils viennent souvent avant l'été, mais il y a énormément d'ateliers, que ce soit avec des enfants, des ados ou des adultes. Donc, ils recherchent souvent des scènes avec des distributions très spécifiques. Et après, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'étudiants, parce que donc il y a les concours et il y a également les ateliers auxquels ils participent au sein de leurs écoles, avec des échéances, avec des thématiques toujours précises, alors qu'ils sont récurrentes, donc que nous, on commence à connaître. Donc évidemment, bien lancé depuis quelques années. C'est vrai que ça fait partie aussi de nos atouts, ce conseil personnalisé. C'est quelque chose auquel on tient. Je pense que c'est vraiment notre cheval de bataille, notre plus, en fait. On arrive aussi à se distinguer grâce à ça. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, on a beaucoup d'étudiants qui viennent avec des idées assez précises, que ce soit de caractéristiques au niveau des personnages, de volonté d'un courant plutôt tragique, plutôt comique... Et on va les orienter en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'ils cherchent, des nouveautés. On va essayer d'élargir au plus le champ des possibles pour leur proposer à chaque fois 5, 8, 9 textes. Et puis ils lisent, ils regardent, et en fonction de leur appétence, ils choisissent. Et en général, ils repartent pas les mains vides. Donc voilà, il y a un vrai échange, il y a un partage aussi, et c'est ça qui est super.
Mais justement, cette question de recommandations très personnalisées, on en parlait. Moi, j'entendais aussi, en rentrant dans la librairie, on sent que les gens viennent, et une des grandes valeurs du lieu, c'est de pouvoir donner des conseils, mais parfois sur des critères qui sont très, très particuliers, parce que les gens ont des attentes sur leur scène. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des souvenirs, parfois, de demandes un peu improbables, en tout cas, qui vous ont marqué ? Parce que je me dis que avec le flux qu'il y a et le nombre de demandes, il doit y avoir des choses parfois difficiles à trouver.
Ouais, alors moi j'en parlais tout à l'heure, mais c'était pas tellement une blague. J'ai quelqu'un une fois qui m'a dit: je cherche une pièce avec un chien et un train. Donc là, j'avoue que ça m'a un peu scotché. J'ai eu un petit peu de mal à trouver. Mais en général, c'est plus dans l'intention au niveau du caractère, de la personnalité des personnages. Mais effectivement, ou alors on est sur des thématiques plus écologistes, féministes, ou là par exemple on a lancé une opération ce mois-ci sur les comédies policières, parce que c'est des choses qu'on édite aussi, donc en fonction de nos parutions, on fait des focus un peu des opérations thématiques. Donc là, il y a des gens qui cherchaient des comédies policières. Voilà, ça reste quand même assez large. Toi, je ne sais pas si tu as une idée en tête de quelque chose.
Non, mais c'est vrai qu'il y a parfois des demandes très incongrues. Il y a des personnes qui veulent jouer des choses sur le cannibalisme ou sur des demandes de jouer des pervers ou des prostituées, etc. Mais en même temps, c'est ce que permet le théâtre, c'est d'aller explorer des personnages parfois très farfelus. Et c'est donc... nous, on accueille toutes les demandes sans aucun jugement. On est un peu des psys des comédiens. Mais voilà, on ne jugera pas.
maintenant, j'ai plus envie de venir sur vous. Donc, c'est des catégories qui sont un peu artificielles, mais pour vous demander de parler de références et de textes que vous aimez. Voilà, donc vous pouvez recommander à chaque fois 2-3 textes si vous voulez. Est-ce que vous avez une pièce classique incontournable pour vous ?
Oui, alors on peut parler. Moi, je parlerai par exemple du Suicidé de Nikolaï Hartmann. C'est une pièce russe du XXe siècle, et c'est l'histoire d'un homme qui veut manger du saucisson et sa femme ne veut pas. Et donc pour ça, il va s'enfermer dans ses toilettes la nuit. Et donc, mais sa femme le surprend. Mais pourquoi tu t'enfermes dans les toilettes ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux te suicider, c'est ça ? Et elle prévient sa voisine prévient le boucher, qui prévient le boulanger, etc. Et finalement, tout le village est convaincu qu'il veut se suicider, il va être obligé, il va être enfermé dans son mensonge, et ça va prendre des proportions énormes, et j'adore cette pièce.
Alors moi, en classique, c'est un peu basique, mais je suis une grande fan depuis très longtemps de Tchekhov, mais d'une pièce qui n'est pas forcément très connue, qui est un monologue qui s'appelle « Les méfaits du tabac », où en fait c'est l'histoire d'un homme donc, qui va donner une conférence après avoir discuté avec sa femme qui tient un pensionnat de jeunes filles contre les méfaits du tabac. Sauf qu'il va en profiter en fait pour pester contre sa femme et il va se rendre compte au bout d'un moment qu'elle est dans la salle. Donc tout à coup son discours va complètement se retourner et c'est extrêmement drôle. Et c'est génial pour un comédien qui a envie de s'éclater, c'est un super terrain de jeu quoi.
Une pièce du coup contemporaine que vous voulez recommander ?
Oui, alors moi j'aime beaucoup une pièce qui s'appelle Bienvenue au bel automne et qui est de Sylvia Briand, voilà. Et c'est une pièce qui est d'actualité puisque ça se passe dans un EHPAD. Je pense qu'elle a travaillé sur le terrain pour écrire, puisque c'est très réaliste. En fait, on va suivre le parcours d'une aide-soignante qui a envie d'avoir un enfant. Et elle va arriver dans l'EHPAD et elle va rencontrer tous ces personnages tous aussi loufoques les uns que les autres. Donc il y a la directrice de l'EHPAD qui est complètement survoltée, au bord du burn-out. Il y a les pensionnaires qui ont Alzheimer, qui ont le syndrome Gilles de la Tourette. Il y a le médecin qui est complètement cynique et désabusé. Et c'est écrit magnifiquement, c'est très vivant. Ça parle de la vie et de la mort, évidemment. C'est entrecoupé de chansons et c'est une pièce dans laquelle on va éclater de rire sur des sujets très graves et en même temps on va pleurer sur des choses du quotidien. Et voilà, c'est un de mes coups de cœur récents.
Moi, je vais parler des autrices. Donc, y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Magali Mougel. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle elle écrit de super rôles, justement, pour les femmes, aussi pour les hommes. Mais elle parle dans ses textes beaucoup de la question de l'émancipation, de la liberté féminine. Et je pense notamment à Erwin Motors, donc, qui parle d'une jeune femme, en fait, qui travaille dans une petite usine de sous-traitance automobile. Et elle est assez docile, pas très loquace, et elle est confrontée en fait à un patron qui s'appelle Monsieur Talsberg, qui, sous couvert toujours de bienséance, de politesse, lui en demande toujours plus, mais ça n'a aucun sens. Donc en fait, la question, c'est de savoir où est-ce qu'elle pose ses limites et jusqu'où elle va accepter ce qu'il lui demande. Et c'est intéressant parce qu'au-delà de la question de la féminité, de la femme, des limites, il y a une critique un peu satirique du monde de l'entreprise et du travail. Donc c'est un peu en demi-teinte. C'est un humour grinçant, mais derrière avec quand même une critique sociétale assez intéressante.
Mais justement, pour rebondir sur les autrices, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice qui est contemporain que vous aimeriez mettre en avant par rapport aux thématiques traitées ?
Alors, il y a une jeune autrice qu'on édite depuis... donc là, on vient d'éditer sa deuxième pièce, mais on a édité sa première pièce, c'était il y a un an, Agathe Charnay. La première pièce, c'est « Ceci est mon corps », ça avait été joué au Train Bleu à Avignon. Et là vient de paraître Nuit de juin. Donc en fait, Ceci est mon corps, c'est une sorte de récit un peu introspectif d'une femme qui s'interroge sur ce qu'est d'être une femme, sur son rapport au corps quand on est né dans les années 90, sur la découverte de son homosexualité, sur comment se positionner en tant que femme par rapport aux injonctions auxquelles on est soumise dans la société d'aujourd'hui. Et dans Nuit de juin, en fait, elle s'intéresse aux adolescents, donc elle a recueilli pas mal de témoignages. Et elle leur a demandé ce que signifiait pour eux d'avoir 14 ans. Donc, c'est plein de récits comme ça entrelacés. Et en fait, c'est une autrice qui est très en lien avec son temps, qui est assez engagée et à la fois dans une écriture très, très sensorielle et poétique. Donc, il y a vraiment une balance entre ce côté presque militant, parfois politique, et quelque chose de très suspendu dans lequel on se laisse complètement aller. Et c'est une autrice qui fonctionne très bien, notamment auprès des étudiants, qu'on aime beaucoup et qu'on est ravis de soutenir et d'avoir avec nous.
Oui, alors, je ne sais pas exactement de quel auteur ou autrice parler, parce que j'en ai tellement en tête.
C'est une des grandes catégories.
mais je peux parler d'un jeune auteur qui vient d'être publié chez nous aussi, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Michael Le Boudère, qui vient du théâtre amateur, lui. C'est pour montrer un petit peu la diversité de ce qu'on peut trouver dans le théâtre, puisqu'il y a 1000 théâtres. Et donc, Michael Le Boudère, qui s'est lancé dans l'écriture et qui nous a donné deux pièces très intelligentes, très bien construites, notamment une qui s'appelle « À 500 mètres sous terre » sur un groupe de touristes qui est coincé dans une mine et qui en fait va être confronté à un problème moral, puisque un grand-père qui a un traitement limité risque de mourir s'il ne sort pas à temps. Mais ce grand-père, on va découvrir qu'il a collaboré pendant l'Allemagne nazie, pendant l'occupation nazie. Et le guide, qui est le seul à posséder le secret de la sortie de la mine, eh bien, est juif, et donc il va être face à cette question: est-ce que je le sauve ou est-ce que je le laisse mourir? Et puis il a aussi réitéré avec Un dîner d'affaires, qui cette fois est une comédie sur le théâtre dans le théâtre. C'est une troupe qui répète une pièce et qui s'aperçoit à sa grande surprise que le public est là un mois avant la date de la première, et qui va donc être obligé de faire une représentation chaotique. Donc là, on retrouve les faux british, on retrouve toute une tradition de comédie qui est aussi très réjouissante.
Et pour terminer, est-ce qu'il y a un personnage un peu mythique de théâtre que vous affectionnez particulièrement ?
Alors, je vais commencer. Moi, mon personnage qui me vient tout de suite en tête, c'est Oncle Vania. On revient à Tchekhov, hein. On ne sort pas des maîtres. J'adore le personnage d'Oncle Vania, donc dans la pièce éponyme. Pourquoi ? Parce que Oncle Vania, il subit le joug d'un vieillard qui lui a volé l'amour de sa vie, qui le fait travailler pour lui, alors que lui est oisif et est complètement égoïste. Et je trouve cette pièce très forte, puisque Tchekhov nous présente ce personnage frustré, raté, qui subit en fait son existence. Et je trouve que c'est un personnage qui n'a rien perdu de sa saveur aujourd'hui, puisque nous aussi, on peut avoir l'impression parfois de travailler pour des vieillards cupides. Et c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que on dit souvent que le théâtre incarne les grands conflits de l'existence. C'est vrai que depuis toujours, hein, il y a un conflit entre les générations, entre les jeunes et les vieux, entre les hommes et les femmes, entre la paix et la guerre. Et donc, pour moi, c'est un personnage qui parle de tout ça.
Il y en a beaucoup, mais moi, j'aime beaucoup les personnages féminins chez Ibsen. Je parle que des femmes, ça fait vraiment un côté.
C'est bon.
Oui, alors notamment que ce soit Nora dans Une maison de poupée ou Edda dans Edda Gabler. Évidemment, il est précurseur de son temps. C'est un des premiers auteurs à oser écrire sur l'émancipation des femmes. C'est le premier, donc dans Une maison de poupée, à composer un personnage féminin qui quitte son mari, mais surtout qui abandonne le domicile conjugal en laissant ses enfants. C'est encore pire que de quitter le mari à l'époque, et ça fait scandale. Et j'aime beaucoup le personnage d'Edda Gabler, qui quelque part, je vais pas dire se rapproche d'Oncle Vania, mais il y a une forme de fatalité un peu commune, parce que elle essaye justement, elle, de s'émanciper du joug des hommes en essayant de reprendre son destin en main, de faire ses propres choix et d'avoir accès à une liberté, mais en fait elle y arrive pas. Elle retombe un peu dans un espèce de mécanisme imposé, sociétal et culturel. Et c'est triste, mais il y a quand même une volonté, un espoir qui naît à ce moment-là, qui est assez rare à cette époque et qui est quand même intéressant.
Merci beaucoup. Ça donne vraiment envie de venir vous demander des conseils pour des livres.
C'est le but.
Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 11h à 19h.
Mais du coup, est-ce que vous pouvez redonner l'adresse de la librairie et...
Oui, donc on est situé 3 rue Marivaux, dans le 2e arrondissement de Paris, métro Richelieu-Drouot ou 4 septembre. Puis vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez venir nous voir, on vous accueillera avec grand bonheur.
Merci beaucoup.
Merci à toi.